France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, Charles Pasqua, ministre de l'Intérieur, première partie 1986-1988. On connaît le Charles Pasqua méridional et vendeur de pastis. On connaît le Pasqua membre du service d'action civique, mais on connaît surtout Pasqua ministre de l'Intérieur et sa vision politique de la France. Quand il débarque dans la vie publique, c'est après une carrière déjà riche. Car le jeune résistant qu'il a été a aussi connu une progression fulgurante au sein de la société Ricard. Arrivé commercial, il en est le numéro 2 lorsqu'il la quitte. Mais la politique prend de plus en plus de place dans sa vie. La bascule s'opère à la fin des années 60. Et très vite, Charles Pasqua mise sur un jeune loup prometteur, Jacques Chirac, auprès de qui il grimpe les échelons. Jusqu'à ce jour de 1986 où, ensemble, ils parviennent à provoquer un petit séisme en remportant les législatives. La France va vivre sa première cohabitation et Pasqua va devenir ministre de l'Intérieur, le portefeuille le plus politique d'un gouvernement 5e République. Notre invité aujourd'hui, Brian Muller, historien au Centre de Recherche Universitaire Lorrain d'Histoire, auteur notamment de l'Armée des Partisans de la 5e République, les Comités de Défense de la République, livre paru aux Presses Universitaires de Rennes. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, récit documentaire Marjolaine Corr, rédaction en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca Donnante, réalisation Frédéric Milano.
Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter.
1986, la France découvre la cohabitation. Ce 16 mars 86, la coalition RPR-UDF rafle 43,9% des suffrages. 86, c'est aussi l'année de l'instauration ponctuelle du scrutin proportionnel. 35 députés du Front National débarquent dans l'hémicycle. À bien des égards, c'est une législature exceptionnelle qui s'annonce. François Mitterrand doit donc confier les rênes de Matignon à son principal opposant, Jacques Chirac. Charge à ce dernier de composer un gouvernement, même si le président considère qu'il a encore son mot à dire.
André Giraud, ministre de la Culture et de la Communication. Monsieur François Léotard, ministre des Affaires étrangères. Monsieur Jean-Bernard Raymond, ministre de l'Intérieur. Monsieur Charles Pasqua, ministre de l'Équipement, du Logement.
Charles Pasqua, ministre de l'Intérieur. Pourtant, c'était hors de question pour François Mitterrand. Même en période de cohabitation, d'abord il veut garder la main sur la défense, les affaires étrangères, la coopération et l'intérieur, les domaines qu'il concerne en tant que chef de l'État. Mais il déclare aussi, avec Pasqua à l'intérieur, les ministres n'oseront plus téléphoner. Comprenez, ils seront tous sur écoute. Méthode qui n'est pourtant pas étrangère au même François Mitterrand. En tout cas, Chirac cède sur tout, sauf sur Beauvau. Il veut récompenser son plus proche lieutenant, celui qui a bâti un parti taillé sur mesure pour lui, le RPR. Quelle consécration en tout cas pour Charles Pasqua. Avant d'entrer place Beauvau, il dit à sa plus fidèle collaboratrice « Je vous préviens, vous allez être impressionné ». Il évoque les dorures, les hauts plafonds et ce bureau massif de ministre à 8 pieds qui est désormais le sien. Les yeux du méridional s'embuent. Lui qui a 15 ans menait des opérations pour la résistance. Lui dont le père était un simple gardien de la paix, formidable. Mais l'émotion s'évapore rapidement.
Mesdames, messieurs, bonsoir. L'événement aujourd'hui, c'est bien sûr l'annonce du nouveau gouvernement. Mais c'est aussi un attentat qui vient tout juste de se produire dans une galerie commerçante des Champs-Élysées, la galerie Poinchot. Selon les premiers éléments que nous avons pu recueillir, il y aurait un mort et 22 blessés, dont 11 graves. Ils ont été emmenés dans les hôpitaux parisiens.
Charles Pasqua est donc cueilli par un attentat le soir même de sa prise de fonction. Comme les précédentes, l'attaque est revendiquée par le comité de solidarité avec les prisonniers politiques arabes et du Proche-Orient. Mais personne ne sait qui se cache derrière ce groupe. La première cohabitation débute donc sous la menace des attentats, mais aussi des prises d'otages au Liban, où 9 Français sont retenus. Le nouveau locataire de la place Beauvau sera sous tous les fronts. Quelques jours plus tard, dans les colonnes de Paris Match, il montre sa détermination dans un entretien où il assène sa phrase restée célèbre « Il veut terroriser les terroristes. Je vais terroriser les terroristes. » Une situation qu'il a en fait empruntée à un proche de Giscard, Michel Poniatowski, un intrigant, ministre de l'Intérieur, légèrement fâché avec la séparation des pouvoirs lorsqu'il préconisait une peine sévère pour des suspects, donc pas encore jugés. Et quand un homme de la trempe de Charles Pasqua prend les commandes d'un tel ministère, eh bien on nourrit quelques craintes sur les méthodes. Car en d'autres temps, Pasqua fut l'un des piliers du service d'action civique, le SAC, officiellement service d'ordre du mouvement gaulliste, officieusement organisation de barbouze. Alors, comment voit-il sa fonction, Monsieur Pasqua? Le journaliste Marcel Trias lui pose la question, aux 20h d'Antenne 2.
On a souvent voulu opposer la sécurité des citoyens et les droits de l'homme. Moi, je crois que les deux sont indissociables. Je voudrais d'ailleurs que l'on considère davantage le ministère de l'Intérieur comme le ministère de la paix qu'autre chose. Je ne connais rien de plus beau comme nom que celui que l'on donne aux agents de la force publique qui sont au bas de l'échelle. Ce que l'on voit dans la rue, ils s'appellent comment ? Gardiens de la paix. Ils militent, ils risquent leur vie pour que tout le monde vive en paix. Le premier des droits de l'homme, c'est le droit à la sécurité, à la tranquillité et à la paix.
Un ministère de la paix, donc. Ce qui, de son point de vue, n'est pas incompatible avec une législation plus ferme à l'égard de la délinquance et de l'immigration. Comme si les deux étaient mécaniquement liés. Son programme est sans équivoque. La France doit cesser d'être un dépotoir, déclare-t-il dans Le Monde. Une façon à lui de passer la racaille au Karcher. Alors, avec son ministre délégué à la sécurité, Robert Pendreau, il commence par effectuer des visites surprises. D'abord dans le métro parisien, en soirée, pour montrer son attachement à la sécurité des citoyens, en tout lieu et à toute heure. Et puis il organise une seconde visite, cette fois dans le quartier de la Goutte d'Or, à Paris, connu pour être l'un des plus cosmopolites de la capitale, donc potentiellement dangereux, selon lui. Et puis il annonce l'organisation d'une série de contrôles d'identité dans les grandes villes. Dans les semaines qui suivent, de fait, plus de 78 000 sont effectués à Paris, Lyon, Marseille et Lille. Toujours sur Antenne 2, le journaliste Marcel Trias lui fait remarquer que le gouvernement semble lier le problème de la sécurité à celui des étrangers, ce qu'on appelle un amalgame. Et il lui demande s'il n'y a pas un risque de stigmatiser.
On ne doit pas lier les deux problèmes, mais je crois que les immigrés ont besoin plus que les autres encore d'un pouvoir qui prenne en main les problèmes de sécurité. Parce qu'il y a une petite partie des immigrés qui, par leur comportement et par la façon dont ils enfreignent la loi, font rejaillir sur l'ensemble de la population immigrée, qui ne le mérite pas, une sorte de phénomène de rejet ou de condamnation. Ça, nous ne l'acceptons pas. Moi, je suis gaulliste. Ça veut dire que je suis un de ceux qui sont engagés pendant la guerre, qui ont combattu le racisme, le nazisme, etc. Donc tout ce qui peut, de près ou de loin, s'apparenter au racisme, nous le combattrons.
Pas de délit de faciès dans les rues?
Pas du tout. Et la meilleure manière de l'empêcher, c'est que l'on dise aussi ceci. Lorsqu'un délinquant est un délinquant, ce n'est pas parce qu'il sera un immigré qu'il sera arrêté, mais s'il est immigré, ça ne le protégera pas d'être arrêté.
Après cette annonce, une loi est immédiatement mise sur orbite pour renforcer les conditions d'entrée et de séjour des étrangers. Il faut dire qu'en face de lui, dans l'hémicycle, Charles Pasqua se trouve face à un groupe parlementaire particulièrement à l'affût sur ces questions. Avec la proportionnelle, le Front National a décroché 35 sièges. Jean-Marie Le Pen est député. Pour le leader de l'extrême droite, c'est l'occasion rêvée de pouvoir influer sur les débats en mettant l'accent sur son cheval de bataille en mode obsession, l'immigration.
Je le dis avec gravité, monsieur le ministre de l'Intérieur. Ou bien vous arrêterez ce flux, et je doute que vous puissiez le faire. Ou bien vous aurez pris, avec votre gouvernement et beaucoup d'autres avant lui, la responsabilité de faire courir à notre pays un risque d'invasion, un risque de submersion qui touche aux notions fondamentales de la défense et de la sécurité intérieure et extérieure de l'État.
Cette histoire de proportionnelle, cette peau de banane que François Mitterrand lui a glissée sous le pied, la droite ne l'a toujours pas digérée. Elle estime que ça lui empêche de dégager une majorité claire à l'Assemblée. Pourtant, la cohabitation est une vraie respiration démocratique qui vient perturber la logique du chèque en blanc attribué pour 5 ans au président élu avec majorité absolue à l'Assemblée, donc sans vrai contre-pouvoir. dit-elle, est la brutalité du fait majoritaire. Vous avez politiquement tort, car vous êtes arithmétiquement minoritaire. Circulez. Oui. Encore faut-il avoir la majorité absolue et solide, ce qui n'est pas le cas pour la droite en 86. Charles Pasqua est donc chargé par Jacques Chirac de rétablir le scrutin majoritaire, mais aussi de faire évoluer la carte électorale. Devant les changements démographiques du pays, il faut en effet redécouper les circonscriptions pour rétablir le principe selon lequel un électeur égale une voix. Il sait très bien que la manœuvre va être des plus délicates, que toute décision sera scrutée à la loupe. Le monde politique craint de voir la droite opérer un découpage en sa faveur. Alors, Pasqua marche sur des œufs. Et effectivement, quelques mois plus tard, ce charcutage électoral déclenche le premier conflit ouvert avec le président Mitterrand, qui refuse de signer l'ordonnance. Mais la Constitution a prévu une parade contre les majorités indisciplinées ou libres. Le 49-3, là encore, circulait en passant force. En parallèle, Pasqua est bousculé par l'actualité, notamment celle des otages du Liban. 9 ressortissants français sont retenus par l'organisation intégriste du djihad islamique. En France, les manifestations de soutien se multiplient.
365 jours, un an déjà aujourd'hui, que Jean-Paul Kaufmann et Michel Seurat ont été enlevés. 13 mois déjà pour Carton et Fontaine, 16 jours pour Camille Sontag, 73 jours pour l'équipe d'Antenne 2. Comme c'est long. Le silence poignant de ce rassemblement doit être entendu. Il manifeste l'émotion, l'inquiétude et l'espoir des familles et des amis et de nous tous qui pensons aux otages, prisonniers d'une cause qui n'est pas la leur. Il faut que l'écho de ce silence se répercute jusque dans le lieu de leur détention pour qu'ils reçoivent ce message qui vient du cœur et qu'ils sachent qu'on ne les oublie pas.
En juin 86, la France parvient à récupérer 2 des 4 journalistes d'Antenne 2. Mais malgré cela, Charles Pasqua comprend que les diplomates envoyés par le Quai d'Orsay piétinent pour les 7 autres otages. Il décide alors d'utiliser ses propres réseaux, en confiant la mission à un ancien officier parachutiste qui a travaillé pour les services secrets, Jean-Charles Marchiani. Un Corse, comme lui d'ailleurs. Quand ils discutent, tous les deux, ils parlent Corse. Avec l'aide d'anciens membres du SAC présents dans la région, Marchiani va consacrer les mois qui viennent à établir une liaison avec les ravisseurs. Au début du mois de juillet, le ministre de l'Intérieur fait face à une première série noire. Un hold-up à la Banque de France de Saint-Nazaire, 2 attentats contre Thomson et Air Liquide, revendiqués par le groupe ultra-gauche Action Directe, suivi de l'attaque des locaux de la brigade de répression du banditisme à Paris, qui tue un inspecteur et blesse une 20aine de personnes. Pour l'instant, les terroristes n'ont pas l'air bien terrorisés. Et pour Pasqua, ce groupe Action Directe est une grosse épine dans le pied, une autre, en plus du fameux comité qui prétend agir au nom des prisonniers politiques arabes. Donc la rentrée ne s'annonce pas terrible, d'ailleurs elle ne sera pas meilleure. Le 4 septembre 86, une tentative d'attentat est déjouée, Gare de Lyon, à Paris. En pleine heure de pointe, le soir, des centaines de voyageurs doivent leur vie à un détonateur défectueux. Il était connecté à 13 pains de plastique, placés sous une banquette du RER A. Dans la foulée, le ministre de l'Intérieur renforce la sécurité.
Charles Pasqua et Robert Pondreau ont discrètement inspecté tout à l'heure les mesures de sécurité mises en place dans les lieux publics. Monsieur Pasqua, qui parle même ce soir de guerre contre le terrorisme.
Il faut bien comprendre ce à quoi nous sommes confrontés. C'est une forme, c'est vrai, c'est une forme moderne de guerre, d'agression, et céder à un chantage, ça n'empêchera pas d'autres chantages. Alors il faut se donner les moyens nécessaires, et éventuellement d'ailleurs, faudra-t-il utiliser d'autres moyens, nous verrons bien.
Utiliser d'autres moyens. Quand on touche à la sûreté de l'État, Charles Pasqua n'en fait pas mystère, il est prêt à sortir du cadre. Mais que faire face à des terroristes dont on ne sait rien, qui peuvent frapper n'importe où, n'importe quand? Comment protéger la population? Ce mois de septembre 86 va marquer durablement les Parisiens. C'est une vague d'attentats qui s'abat sur la capitale, dans des lieux imprévisibles et à tout moment de la journée.
Bonsoir, nous l'avons appris il y a quelques dizaines de minutes, un attentat commis dans le bureau de poste de l'hôtel de ville de Paris. Premier bilan, un mort, 10 blessés.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le chantage terroriste continue. Encore un attentat à Paris aujourd'hui, le deuxième depuis le début de la semaine. La bombe qui a explosé en fin de matinée dans la cafétéria d'un supermarché du quartier de la Défense a fait 41 blessés, dont deux...
Ce flash spécial pour vous tenir informé après l'attentat commis cet après-midi peu avant 14h à la préfecture de police de Paris. Le dernier bilan fait état de 30 blessés, dont 6 personnes grièvement atteintes parmi les gardes.
Petite interruption dans cette rubrique football, si vous le permettez Bernard, pour de nouvelles informations concernant l'attentat des Champs-Élysées.
Absolument, et donc une bombe a explosé tout à l'heure vers 17h37 aux Champs-Élysées, au pub Renault.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nouvel attentat ce soir à Paris chez Tati, le grand magasin de la rue de Rennes. Un attentat à l'explosif qui a fait 5 morts et une cinquantaine de blessés.
Résultat, les rues se vident. Les Parisiens craignent de se trouver au mauvais endroit, au mauvais moment. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, Charles Pasqua, premier volet, 1986-1988, les crises.
Affaires Sensibles, Fabrice Drouel.
La France se dote de deux lois. La première, pour lutter contre le terrorisme, ce qui est inédit. Désormais, il existe une définition de l'acte terroriste. La loi étend la durée de la garde à vue à 4 jours et la possibilité d'accéder à un avocat seulement après la 72e heure. C'est aussi la première fois qu'une prise en charge des victimes est prévue pour les dédommager des préjudices subis. La seconde loi concerne le séjour des étrangers en France. Elle impose des restrictions dans l'attribution des cartes de résident. Les formalités pour entrer sur le territoire français sont plus importantes. Et l'administration peut immédiatement reconduire à la frontière les étrangers en situation irrégulière. Un mois à peine après son entrée en vigueur, Charles Pasqua applique sa nouvelle loi. Il embarque 101 Maliens dans un charter et les renvoie au pays. Les trois quarts d'entre eux n'étaient pas en règle et les autres étaient sous le coup de condamnations judiciaires, notamment pour trafic de stupéfiants. Mais ce charter est une première et il fait polémique. La gauche est vent debout aux côtés de SOS Racisme. Les catholiques et les protestants marquent eux aussi leurs inquiétudes, pendant que la droite se réjouit de la bonne application de la loi. Du côté du Mali, la surprise est totale. Paris n'a pas pris la peine d'en informer les autorités. En novembre 86, le journal Libération fait le point sur l'action de Charles Pasqua en matière d'immigration. Le journal relève qu'en 8 mois, tout ce que le programme commun de la droite annoncé aux législatives a été appliqué. Rétablissement des visas touristiques, contrôle d'identité, expulsion des clandestins. Mais il reste un point en discussion, la modification des prestations sociales. Le samedi, dans certains quartiers, les contrôles d'identité sont incessants. Des habitants se plaignent d'être contrôlés plusieurs fois d'affilée. Le journal Libération dénonce l'action du ministre de l'Intérieur. De quoi faire sourire l'intéressé. Pour lui, Libé est une boussole qui indique le sud. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'en ce mois de novembre 86, il est sur le point de connaître une nouvelle série noire. Celle-ci commence le 17 novembre au soir.
Georges Besse, le patron de la régie Renault, a donc été assassiné tout à l'heure, un peu après 20h30. Il a été abattu en pleine rue, boulevard Edgar Quinet à Paris, devant son domicile. Georges Besse, qui avait 58 ans, était l'un des principaux industriels français. Il semble bien qu'il s'agisse d'un attentat. La police pense qu'il pourrait être le fait d'action directe.
Action directe, encore eux, capables de tuer un grand patron en pleine rue. Charles Pasqua fulmine. Il en veut surtout au président Mitterrand, qui, en arrivant au pouvoir en 81, les a amnistiés, selon la tradition en vigueur à l'époque, mais qui a coûté la vie à plusieurs personnes depuis leur libération. Pasqua veut tout faire pour les empêcher de frapper à nouveau. Mais déjà un autre front s'ouvre, celui des manifestations étudiantes. Son collègue, Alain Devaquet, ministre de l'Enseignement supérieur, vient de présenter un projet de loi visant à mettre en place la sélection à l'entrée des universités. Le 22 novembre, 200 000 étudiants se réunissent à la Sorbonne pour protester. Le 27, les fédérations étudiantes affrètent des TGV vers Paris. Plus de 500 000 jeunes envahissent les rues. Depuis la place Beauvau, Pasqua tense ce qu'il appelle les professionnels de la déstabilisation. Et la pression des manifestants l'inquiète. Car il sait que le terrain est propice aux bavures. Bon, jusque-là, il n'y a eu aucun dérapage. Mais à tout moment, la situation peut lui échapper. Devant l'immense mobilisation et pour apaiser les esprits, Jacques Chirac renvoie le texte en discussion. Les étudiants sentent qu'une brèche est ouverte et s'y engouffrent, prévoyant une nouvelle manifestation le jeudi 4 décembre. La tension cette fois est beaucoup plus forte. Plusieurs dizaines de manifestants sont blessés sur l'esplanade des Invalides. Le lendemain, une manifestation sauvage, sans organisateur, prend forme aux abords de la Sorbonne. Quand la nuit tombe, il reste moins de 400 personnes dans l'un des amphithéâtres. À 1h du matin, les CRS reçoivent l'ordre de les évacuer. Personne n'oppose de résistance. En appelant le ministère de l'Intérieur, le préfet se montre rassurant. Il ne reste que quelques fraudeurs de troubles faciles à maîtriser. Le ministre peut aller se coucher serein. Sauf que...
Un étudiant de 22 ans, Malik Houssekine, matraqué par des policiers la nuit dernière dans le quartier latin à Paris, décède d'un arrêt cardiaque. Manifestation cet après-midi à sa mémoire, tension dans le monde politique, notamment au rassemblement des 10 ans du RPR. Le ministre Alain Devaquet a présenté sa démission ce matin. François Mitterrand reçoit Jacques Chirac à 21h30 à l'Élysée ce soir.
Après l'évacuation de la Sorbonne, des voltigeurs ont été envoyés pour nettoyer les rues des derniers casseurs. Pasqua est incrédule. À l'heure où il a rejoint son lit, on lui a assuré que les tensions étaient retombées. Alors, qui a bien pu donner l'ordre, en pleine sortie de crise, d'envoyer ses policiers qui tapent sur tout ce qui bouge, sans discernement? Accusé avec son ministre délégué à la sécurité, Robert Pendreau, d'être celui qui a donné l'ordre, Charles Pasqua accuse le coup. Mais il tient sa ligne, on ne touche pas à la République. Et les forces de l'ordre sont les représentants de la République. Donc, il maintient son soutien aux policiers et à son collègue Pendreau, qui lâche cette phrase. « Si j'avais un fils sous dialyse, je l'empêcherais de faire le con la nuit. » Un manque d'humanité qui choque, après la mort de Malik Houssekine, victime des policiers voltigeurs. Une polémique enfle et s'étire dans le temps. Le ministre est régulièrement appelé à se justifier devant la presse ou face aux opposants politiques. À la suite de cette affaire, l'unité de police des voltigeurs est finalement dissoute. et le mystère de l'envoi de ces troupes-là sera résolu au début des années 2000 par une confidence livrée à Charles Pasqua par courrier. C'est l'essayiste Pierre Manetti qui le révèle dans la biographie qu'il lui consacre. Rongé par le remords, un proche du commissaire qui a donné l'ordre fatal ce soir-là raconte. Il se trouve qu'à ce moment, j'étais en train de boire un whisky dans le bureau du commissaire Jean-Paul Roger. Le téléphone a sonné sur sa ligne directe. C'était sa fille. Nous avons repris un autre whisky. Elle a rappelé et il m'a dit « J'en ai marre. Hein. Tu vas voir comment on fait pour faire finir tout ça. » Alors, il a donné un ordre sur un autre appareil. Et quelques minutes plus tard, j'ai entendu un bruit de moto sous la voûte et j'ai vu partir l'escouade en direction de la rue Saint-Jacques. Après cette calamiteuse année 86, l'année 87 commence sous de meilleurs auspices. Les vagues d'attentats semblent refluer. Charles Pasqua profite de cette accalmie pour s'attaquer alors à un autre type d'attentat. À la pudeur cette fois. Démonstratif, il aménage une expo dans une annexe ministère de l'Intérieur à deux pas de la place de l'Étoile.
Pasqua ouvre un sex shop, pas pour le plaisir naturellement, mais pour faire la preuve par 9, sinon par 69, que certaines censures visant des magazines et des revues licencieuses étaient et sont toujours justifiées. Donc, Charles Pasqua a organisé une sorte d'exposition du scandale, ouverte uniquement à des invités triés sur le volet, des parlementaires, des dirigeants d'associations familiales et des journalistes. Tous ceux qui y sont allés ont pu voir un amalgame de soft et de hard, de gentils magazines comme Penthouse ou New Look, et d'abominables revues pornographiques interdites à la vente, même dans le plus discret des sex shops.
À gauche, on s'offusque de cet immense gloobie-boulga où la pornographie et les revues gays s'affichent à côté de la pédocriminalité, encore une fois, amalgame. Quelques mois plus tard, cette expo est suivie d'un arrêt interdisant la vente aux mineurs d'une quarantaine de revues, parmi lesquelles L'Écho de Savane, magazine qui tire à plus de 170 000 exemplaires. En ce début d'année 87, sur le front des otages du Liban, les choses semblent enfin se décanter. Grâce au travail de son missionnaire, Jean-Charles Marchiani, le ministre de l'Intérieur est maintenant persuadé que l'Iran joue un rôle dans ces enlèvements. Mais au même moment, les deux affaires, celles des otages et des attentats qui ont frappé le sol français, se rejoignent. En interrogatoire, en effet, un homme arrêté dévoile à la police le commanditaire, un certain Wahid Gorgi, interprète à l'ambassade d'Iran en France. Gorgi, qui est justement l'interlocuteur des Français pour les otages du Liban. Pour échapper à la police, l'interprète, suspecté d'être en réalité le numéro 2 de l'ambassade, s'y enferme. Charles Pasqua ne se laisse pas démonter et réagit à sa façon. Il fait dresser une barricade autour de l'ambassade. Quiconque en sort est contrôlé. C'est le début de la guerre des ambassades entre la France et l'Iran. De quoi créer quelques frottements avec le Quai d'Orsay. Mais le ministre des Affaires étrangères, Jean-Bernard Raymond, fait semblant de ne pas en prendre ombrage.
Est-ce que, monsieur le ministre, ça veut dire que finalement, à Paris, au sein du gouvernement, qu'on a eu l'impression, les violons maintenant sont accordés, ils n'étaient pas tellement la semaine dernière?
Il existe des rapports entre les ministères de l'Intérieur et les ministères des Affaires étrangères comme ils n'ont jamais existé. Ils sont très très bons.
Jusqu'à la porte de l'ambassade d'Iran, quand même.
De l'ambassade d'Iran, ils sont très très bons aussi. Il est normal que le ministère de l'Intérieur prenne un certain nombre de mesures pour éviter qu'un membre de cette ambassade d'Iran, qui devrait se rendre tout à fait naturellement à une convocation d'un juge d'instruction, qu'il convoque en plus comme témoin, c'est tout à fait normal que l'on prenne les dispositions pour qu'il ne disparaisse pas une nouvelle fois, c'est tout.
Dans ce climat, les négociations pour libérer les otages patinent. D'autant qu'il n'existe pas de document à charge contre Gorgi. Pour se dégager de cette ornière, Charles Pasqua finit par proposer à Téhéran son expulsion en échange de deux otages français. Les deux reporters d'Antenne 2, Roger Hawke et Jean-Louis Normandin, sont libérés fin novembre après 628 jours de détention. La cohabitation s'achèvera bientôt avec la présidentielle de 1988 qui arrive. Depuis l'été, les partis commencent à se mettre en ordre de bataille. Pour le RPR, comme pour ses concurrents, il est l'heure de fourbir ses armes. Après ce septennat mitterrandien, et grâce à la victoire de son camp en 86, Jacques Chirac a bon espoir de rafler la mise. Charles Pasqua, vedette de l'Université d'été des jeunes RPR, est accueilli sous les acclamations. Un Pasqua sinon rien, entend-on, en référence à son passé chez Ricard, bien sûr. Alors il donne la ligne de conduite à ses troupes.
Il est donc important de savoir que l'objectif numéro un, c'est de battre les socialistes. Que pour cela, nous devons naturellement tout faire pour que notre propre leader soit en tête. Mais nous ne devons rien faire qui puisse gêner nos partenaires. Nous ne gagnerons pas sans l'UDF. Chirac ne gagnera pas sans Barre et Barre ne gagnera pas sans Chirac. Alors, occupons-nous de nous-mêmes. Parlons de nous, de nos idées. Comme nous avons de l'agressivité à revendre, utilisons-la contre les socialistes et contre les communistes, qui sont les adversaires.
Mais à l'heure de déclarer sa candidature en janvier 88, Jacques Chirac privilégie un autre de ses proches pour mener sa campagne, Alain Juppé. Or, entre lui et le ministre de l'Intérieur, c'est loin d'être le grand amour. Pasqua, le gaulliste entouré de fidèles, l'homme clanique, supporte mal les calculs froids de son jeune collègue énarque. Mais Jacques Chirac a tranché. Les meetings à la Pasqua, terminés. Après un mois de campagne à la sauce Juppé, le ministre de l'Intérieur est tout de même rappelé. Le centriste Raymond Barre vient de déclarer sa candidature, donc il faut s'assurer un passage au second tour. Pour Charles Pasqua, il n'y a pas mille manières d'y parvenir. Il faut prendre des voix au Front National. Avec cette visée électorale, il n'hésite pas à déclarer lors d'une interview à Valeurs Actuelles « Il y a sûrement au FN quelques extrémistes ». Mais sur l'essentiel, le Front National se réclame des mêmes préoccupations, des mêmes valeurs que la majorité. Seulement, il les exprime de manière un peu plus brutale. Chez les gaullistes, on s'étrangle. On y voit un sérieux coup de canif asséné à la doctrine Chirac, cette sorte de cordon sanitaire autour de l'extrême droite, ne pas s'en approcher, toxique. Pasqua lui reproche à Chirac de trop ménager les centristes. Pour lui, il est évident qu'il faut se démarquer. Il sera toujours temps de se rabibocher avec eux une fois le second tour décroché. Devant le tollé, il précise toutefois, quelques jours plus tard, « Je ne siégerai pas dans un gouvernement comprenant des ministres issus du FN ». En d'autres termes, il veut bien ses voix, mais pas ses membres. Profitant de sa position place Beauvau, en mars, le ministre laisse fuiter un sondage des renseignements généraux particulièrement favorable à son poulain. Jacques Chirac est crédité de 51% des voix face au président Mitterrand au second tour. Vieille tactique destinée à influencer les électeurs, alors même que les autres sondages sont beaucoup moins amènes. À quelques semaines de l'échéance, Charles Pasqua semble prêt à tout pour faire élire son champion. Tout, absolument tout. Même en résolvant plusieurs crises pile entre les deux tours, d'un côté les otages de la grotte d'Ouvéa, en Nouvelle-Calédonie, de l'autre la libération des derniers otages au Liban. Le bébé de chou en fait ses choux gras, en imaginant un dialogue entre François Mitterrand, Jacques Chirac et Charles Pasqua.
C'est pas un peu curieux, hein? Je pose une question idiote, mais... qu'ils aient été libérés comme ça, juste avant le deuxième tour, eh ben moi, ça me paraît bizarre.
À l'enflure, il est malin, ça me scie la nouille.
Moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est ce que tu as pu promettre aux djihad islamiques pour qu'ils libèrent les otages. Ouais. Moi, j'ai rien promis. Enfin, trois fois rien.
Écoute, maintenant, il y en a marre, pas de quoi. Ouais, oh. Tu vas le dire ce que t'as promis, tu vas le dire.
Aïe, 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 lâche-moi. Bon, ça va, ça va. Je vais parler. Je leur ai promis...
Oui.
Que je les rendrai lundi.
Ce qu'il rendra lundi, ce sont les clés de la place Beauvau. Et pour cause. Le président réélu écrase Jacques Chirac, disséminé façon puzzle, après l'avoir pulvérisé lors du débat d'entre-deux-tours. Et le verdict des urnes est terrible. 54% pour François Mitterrand. Une victoire, dites-vous, non, un triomphe. Et évidemment, cette campagne laisse un goût amer à Charles Pasqua. Elle a le goût des ruptures. Celui qui avait forgé un parti, le RPR, forgé un homme pour le porter au sommet, ne comprend plus son candidat. Trop de compromis, de tergiversations. Le tandem Chirac-Pasqua vient d'exploser. l'ex-futur ministre de l'Intérieur le lui fera comprendre 7 ans plus tard, en soutenant le rival de Jacques Chirac, Édouard Balladur. Et encore une fois, dans le camp de la défaite, nous verrons cela demain.
France Inter. Affaire sensible. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, Charles Pasqua, 86-88, le temps des crises. Notre invité, Brian Muller. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien au CRUL. Le CRUL, c'est le Centre de Recherche Universitaire Lorrain d'Histoire. Vous êtes basé à Metz ou à Nancy ?
Alors, j'étais basé à Metz et je suis rattaché à Metz, mais désormais j'enseigne en Ile-de-France.
D'accord. Alors, vous venez de publier un article sur les représentations de Charles de Gaulle et du gaullisme dans les fictions historiques. C'est hors sujet, mais on en dira un mot quand même, parce que ça m'intéresse. Et puis, dans les cahiers d'histoire immédiate, vous êtes, ça c'est dans les cahiers d'histoire immédiate, et vous êtes aussi l'auteur de l'Armée des partisans de la Ve République, les comités de défense de la République entre 68 et 78, c'est paru aux presses universitaires de Rennes. Racontez-moi ce que vous racontez dans ce livre, dont le titre m'interpelle, et que j'ai pas eu le temps de lire encore, je vous le dis ouvertement.
Alors, les CDR, c'était un groupe créé en réaction à mai 68. La date exacte de fondation est un peu complexe, puisqu'il y a plusieurs dates, en fait, possibles.
Comité de défense de la République, CDR, c'est ça?
C'est exactement ça. Mmh. Et ça va d'ailleurs donner le nom de l'UDR. L'UDR s'inspire directement des CDR.
D'accord.
Et j'ai une anecdote qui peut vous intéresser, parce que je suis allé voir, pas plus tard qu'hier, la page de Charles Pasqua, la page officielle du Sénat sur Charles Pasqua, et il est écrit quelque chose d'assez surprenant. On le présente comme le cofondateur du service d'action civique en 59. On dit qu'il aurait vice-présidé le SAC avant d'en prendre la direction de 64 à 69. Et on dit aussi qu'il aurait fondé les CDR en mai 68, sauf que tout ce qui est écrit est faux.
Et pourquoi ?
En fait, Charles Pasqua n'a pas du tout fondé les CDR. Il apparaît pour la première fois dans les CDR dans le cadre du comité national en tant qu'agent de liaison du SAC le 20 juin 68. Donc, ce n'est pas la fondation des CDR vu que c'est en mai. Et il disparaît déjà avant mai 69. Donc, il ne reste même pas longtemps. Il apparaît 2 fois. C'est en représentant. Et par rapport au SAC, c'est faux puisque le SAC il ne le rejoint qu'en 60, en 1960 et pas en 59. Et c'est en plus le SAC de Marseille, pas le SAC national. Il ne rejoint le SAC national qu'en 65.
Bon, il y a des trous dans la raquette dans sa bio...
Bio-officielle.
Bio-officielle. Alors, pour Pasqua, devenir ministre de l'Intérieur, quand on a eu un père policier, c'est un sacre. Hein. Et ce père, justement, c'est celui qui l'a embarqué dans la résistance quand il a à peine 15 ans. Quel est le parcours de résistant de Charles Pasqua, qui n'a jamais été mis en cause, et à juste titre d'ailleurs.
Charles Pasqua, en fait, c'est vraiment un authentique héros dans la zone de Grasse. Donc c'était une zone avant d'occupation italienne qui a ensuite été reprise par les nazis quand l'Italie abandonne officiellement le conflit en 43. Et Pasqua, avec son père, mais contre l'avis de son père, va vouloir se battre en fait et combattre. Il va mener d'abord des missions de renseignement avant de finalement prendre les armes en 44. Donc on a un jeune homme qui est bouillonnant, qui est déjà prêt à en découdre pour la patrie, qui est en danger à ses yeux. Et il va d'abord collaborer avec les communistes avant que les règlements de compte du PCF envers certains éléments qui avaient résisté contre les ordres en 40-41, puisque je rappelle que PCF avait ordre de au minimum s'abstenir, au pire collaborer avec Vichy.
C'était au regard du pacte germano-soviétique.
Exactement. Pasqua, en fait, constate qu'il y a des règlements de compte à ce moment-là et qu'il y a des communistes qui ont pris la résistance plus tard, qui se mettent à exécuter des communistes qui avaient pris la résistance dès le début. Il y a des règlements de compte internes et ça va le dégoûter, vraiment. En plus, il y a le cadre de la guerre froide après.
Bien sûr. Alors, la résistance l'a forgé, c'est clair, mais après cela, ce qui le forge aussi, c'est son passage, chez Ricard. Qu'est-ce que ça lui apporte pour sa vie politique à venir? Parce qu'on en parlait beaucoup, justement, de ce job chez Ricard.
Alors, en fait, Ricard, c'est un peu la profession qui va révéler Charles Pasqua comme grand organisateur et communicant. En fait, Pasqua, il faut le savoir, il avait commencé des études de droit qu'il a abandonnées en cours de route. Il a fait des petits boulots, comme beaucoup de jeunes, pour essayer de survivre. Donc, il était veilleur de nuit, il a été un détective privé. Apparemment, sans forcément être mauvais, il n'était pas excellent non plus. Et en 52, il devient représentant commercial chez Ricard et il va vraiment se dévoiler comme un super communicant au début. Puisqu'en 54, il y a une anecdote qui est confirmée par plusieurs témoins, y compris chez Ricard, avec qui les relations ont fini pourtant pas être mauvaises, donc ils n'avaient pas d'intérêt à le vanter, mais qui ont reconnu qu'en 54, il a l'idée de faire des grandes affiches publicitaires. Là, on avait l'habitude de faire des fiches A4, voire B5. Et on comprend qu'en fait, Pasqua arrive à faire des arguments chocs, arrive à marquer les esprits à une époque où les gens étaient plus conventionnels. Et en montant dans la hiérarchie, il va aussi se révéler être un excellent organisateur.
Ouais.
C'est comme ça qu'il finit numéro 2 à la fin.
bien communiquer, bien organiser, ce sont des qualités de base du bon politique. Donc c'était un vrai homme politique.
Oui, alors c'était en parallèle un militant du RPF, le Rassemblement du Peuple Français, qui est, je rappelle, le seul et unique parti politique fondé et dirigé par de Gaulle en personne. Il va combattre pour le RPF et en fait, quand il rejoint Ricard en 52, c'est au moment où le RPF est en train de s'entre-déchirer, de s'auto-détruire finalement, puisqu'il est mis en sommeil en 53, il est dissous en 55. Et en fait, c'est en 52 quand il voit que le RPF c'est fini. C'est déjà en train d'être fini, il va s'engager chez Ricard et il va, au moment où le gaullisme s'effondre, il va faire son ascension professionnelle.
Alors, quand il arrive dans la sphère de ce qu'on appelle les néo-gaullistes, dans les années 70, 80, 90, aujourd'hui c'est un peu différent, la filiation commence à être un petit peu lointaine. Mais enfin bon, il y a les néo-gaullistes. Quelle place il tient dans cette sphère des néo-gaullistes qui est très diverse et très diversifiée finalement en termes de personnalité?
Alors, dans les années 70-80, très clairement, il a un rôle clé. C'est l'un des hommes, si ce n'est l'homme de confiance de Jacques Chirac. Il n'est pas tout seul au début, il y a Marie-France Garraud et Pierre Juillet qui vont le propulser, hein, le jeune Chirac. Mais une fois qu'ils sont écartés après le désastre de l'appel de Cochin et des européennes, Pasqua va monter tout seul et il va dominer ce champ-là. Après 88, va y avoir un début de divorce et clairement, en 95, c'est la séparation. Alors, il faut pas l'exagérer non plus, puisque Chirac va quand même le nommer officier de la Légion d'honneur. Hein. Il va pas non plus totalement divorcer. Mais on va dire que les années 90, c'est la chute en termes de relations entre les deux.
On l'a raconté d'ailleurs.
France Inter. Affaires sensibles.
Ryan Muller, je rappelle que vous êtes historien, que vous avez écrit notamment « L'armée des partisans de la Ve République, les comités de défense de la République ». On a parlé des comités de défense. Quand vous dites « l'armée des partisans », ça veut dire « anciens résistants », d'accord?
Oui, c'est eux-mêmes, c'est une citation que j'ai, j'ai repris d'Yves Lancien, qui en 72 avait justifié leur pérennisation face au SAC, justement, parce qu'on leur disait qu'ils servent à rien, parce qu'ils font concurrence au SAC. Mmh. Et il avait répondu, non, nous sommes les partisans de la Ve République, nous sommes les combattants prêts à aider l'UDR si l'UDR tombe.
Ouais, parce que les partisans, c'était aussi les résistants. Oui. Et il se trouve que dans la sphère gaulliste et néo-gaulliste, on a de grands résistants. Chaban, évidemment. Évidemment, c'est le numéro un. Mais Mesmer, Boulin, Sanguinetti, Pasqua. Alors, est-ce que ça donne un profil particulier de l'homme politique de la Ve République, cette appartenance à la résistance? D'ailleurs, je crois que Jacques Chaban-Delmas et Charles Pasqua disaient-tu à Mitterrand, il me semble. Et ça venait de cette filiation de la résistance. Mitterrand était aussi un résistant. Est-ce que ça implique une façon de faire de la politique différente?
Alors, différente, oui et non. Oui, dans le sens où dans la pratique militante sur le terrain, ça a tendance à créer à laisser, on va dire, certaines traces et à laisser un militantisme un peu plus rugueux, disons. Mm-hmm. Par contre, dans la pratique politique elle-même, on ne constate pas tellement de différence finalement entre les résistants et les non-résistants au RPA.
Alors, c'est Pasqua qui organise la rencontre, Le Pen-Chirac, et puis il tend la main aux électeurs du Front National dans l'interview retentissante qu'il donne à l'époque en 88 à Valeurs Actuelles. Au moment de la présidentielle, on est quelques jours avant le premier tour, peu importe, on est vraiment dans la présidentielle.
On est dans l'entre-deux-tours.
L'entre-deux-tours, c'est ça. Et il dit, concernant le Front National, « nous partageons certaines de leurs idées ». Est-ce qu'on sait si Jacques Chirac était au courant de cette déclaration?
Alors, on sait que Jacques Chirac l'a découverte. Charles Pasqua ne lui a pas demandé le feu vert. Et on sait que Chirac a fulminé. Tout comme, de toute manière, la rencontre secrète que Pasqua va lui imposer avec Jean-Marie Le Pen dans l'entre-deux-tours. Pareil, Chirac n'en voulait surtout pas. Chirac détestait Jean-Marie Le Pen.
Ce que j'appelle cordon sanitaire.
Oui, même si le terme de cordon sanitaire marchera surtout dans les années 90, parce que dans les années 80, il accepte certaines alliances locales. C'est dans les années 90 qu'il va dire non, en fait, il faut vraiment faire un barrage. Mais à ce moment-là, Chirac, de toute manière, n'aimait pas Jean-Marie Le Pen, n'aimait pas les élus du FN. Lui, ce qu'il voulait, c'était éventuellement les voix et à la rigueur. C'est surtout Charles Pasqua, en fait, qui fait ça par calcul politique.
Alors, il faudrait interroger sa mémoire, hein, parce que Charles Pasqua est mort en 2015, à l'âge de 88 ans. Mais on est curieux de savoir ce qu'il a ressenti pour l'affaire Malik Oussekine. On peut penser raisonnablement que c'était le moment le plus difficile de son passage à Place Beauvau. Parce que c'était vraiment un drame terrible à assumer quand on est ministre de l'Intérieur. Et il n'est pas douteux que Charles Pasqua ait été horrifié, lui aussi, de cette affaire-là.
De ce qu'on en sait, Charles Pasqua, parce qu'il en a très peu parlé, donc on fait à partir du peu de sources à notre disposition, mais visiblement, oui, il était bouleversé. Ça l'a vraiment choqué que des voltigeurs tuent un jeune homme. En plus, jeune homme qui n'était pas dans la manifestation, hein, je précise. Malik Oussekine a été passé à tabac parce qu'il était au mauvais endroit au mauvais moment.
Absolument, ah oui, bien sûr.
Ça, c'est un vrai problème aussi. Et le comble, c'est qu'il a assumé sa fonction et on l'a blâmé pour une action qui, en fait, est l'initiative isolée, comme vous l'avez dit dans le documentaire, d'un commissaire qui voulait rentrer à la maison parce que sa fille le harcelait pour qu'ils mangent ensemble. Ouais. Donc, c'est même pas la faute de Pasqua ou de Robert Pandreau. Roger Pandreau, excusez-moi.
Robert Pandreau.
Oui, c'est Robert Pandreau. Mmh. Voilà, donc vraiment, on a eu Charles Pasqua qui a endossé le costume et qui a assumé jusqu'au bout la responsabilité en tant que chef, alors qu'il n'était pour rien.
C'est une forme de courage, selon vous ? Courage politique ?
De courage politique, oui. Et en tout cas, lui, le présentait comme tel. Il disait, je suis le chef, je dois assumer.
Ouais. Alors, après le compagnonnage, même l'intimité avec Jacques Chirac, voilà qu'il se tourne vers Édouard Balladur. Je me souviens qu'à l'époque, ça avait étonné parce que on trouvait naturel l'attelage Pasqua, Chirac, moins Balladur, qui était ce grand bourgeois, cette bourgeoisie qui sont un peu la cire, voire la naphtaline. C'est pas du tout le, comme Chirac, qui est une droite populaire. Je n'ai pas dit populiste, hein,
oui.
Populaire. Comment expliquer cette nouvelle alliance avec Édouard Balladur ?
Alors,
comment vous la voyez, vous ?
Il y a plusieurs explications possibles. Mmh. Je pense que c'est, comme souvent, multifactoriel. L'un des éléments déjà essentiels à mettre en avant, c'est que Pasqua commençait à être mis de plus en plus, pas au placard, faut pas exagérer, mais disons, un peu écarté au profit d'Alain Juppé. Et les deux, comme vous l'avez souligné, ne s'aimaient pas tellement,
ouais.
Pas en tout cas de leur vivant à l'époque. Et en plus, Pasqua est au gouvernement et le gouvernement, comme le disait Balladur, devait faire preuve de solidarité gouvernementale. Balladur se présente, on est au gouvernement, il faut soutenir le chef du gouvernement. Il y a un autre élément qu'il ne faut pas oublier non plus et qui est important pour Pasqua, c'est que le but, c'est avant tout de gagner. Or, les sondages donnaient absolument tous, y compris les plus favorables, ils donnaient tous Jacques Chirac perdant.
Ouais.
Donc Pasqua, qui est assez pragmatique là-dessus, on l'a vu pour 86-88, a dû sûrement aussi, je pense, se dire qu'il valait mieux Balladur qui était donné gagnant qu'un Chirac donné perdant par tout le monde.
Ouais. Sauf qu'il n'a pas compris, là il a manqué de sens politique, qu'il y avait une équation de Balladur avec le peuple qui était très compliquée.
Oui, il n'a absolument, pas vu, ou en tout cas pas suffisamment.
Oui, bien sûr. Est-ce qu'on dit que, je ne sais pas si vous avez l'information après tout, que Charles Pasqua entretenait des rapports très, presque, oui, amicaux avec François Mitterrand, qu'il le voyait pendant la cohabitation, que les deux se parlaient. Est-ce qu'on a des preuves de ça ? Qu'est-ce qu'on dit ?
Pas à ma connaissance. Bon. Les deux se parlaient avec respect, mais est-ce qu'ils respectaient l'homme ou est-ce qu'ils respectaient la fonction ? Je ne saurais vous le dire.
Ce sera le mot de la fin, Brian Muller, et en tout cas, je vous remercie pour vos éclairages.